Ouvrons nos Bibles à Romains chapitre 13 ce matin. Romains chapitre 13. Alors, comme vous le savez, on a fait une pause pendant l'été. Nous avons fait une série d'été sur la vie du roi David qu'on a terminée dimanche dernier. Et donc, ce matin, nous revenons à l'épître aux Romains. Et là, on arrive dans la dernière lignée car il n'y a que quelques chapitres qui restent. Mais ça tombe bien quelque part parce que c'est... Ce sont les chapitres extrêmement pratiques de Romains. Donc aujourd'hui, Romains chapitre 13, les versets 1 à 7, un message que j'ai tout simplement intitulé « Le chrétien et l'État ». Le chrétien et l'État. Et j'aimerais lire Romains 13, les versets 1 à 7, des versets que vous connaissez peut-être déjà, mais qui seront bons à revoir ce matin. Paul écrit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Que Dieu bénisse sa parole. Moi, ça me fait rire parce que ces textes sont tellement clairs, j'ai presque même pas besoin de prêcher. Mais je vais quand même prêcher parce que je suis appelé à prêcher, je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est vraiment clair. Donc j'ai intitulé mon message « Le chrétien et l'État ». Voici le sous-titre que je me suis donné. Le chrétien est, donc EST, le gouvernement, la police, l'armée, les radars de la route, la prison, la peine de mort et les impôts. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, on va tout voir. Tout ce que je viens de lister. Alors juste une petite révision. Nous sommes dans l'épître aux Romains et on peut vraiment diviser l'épître aux Romains en deux grandes parties. La première, c'est ce que j'appelle, ou c'est ce qui est appelé la justification par la foi. C'est la description de notre salut gratuit par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est les chapitres 1 à 11. À partir du chapitre 12 et jusqu'au chapitre 16, nous avons la deuxième grande partie. C'est ce que moi j'appelle le résultat pratique ou les conséquences pratiques d'être chrétien, justifié par la foi, d'être né de nouveau. Et au chapitre 13, nous allons voir comment le chrétien né de nouveau, justifié par la foi, doit se comporter vis-à-vis des autorités supérieures, vis-à-vis de l'État. Donc voilà le but du chapitre 13. Et j'aimerais vraiment rentrer tout de suite dans le sujet. J'aimerais simplement parcourir ces versets en posant cette question. Cette question pertinente par rapport à l'autorité gouvernementale et tenter de donner la réponse biblique à chacune en utilisant le texte de Romains 13. Alors c'est vrai que, peut-être avant de commencer, juste lorsqu'on pense à la soumission à l'État, je ne sais pas comment vous réagissez dans votre cœur, mais si vous êtes une personne avec une nature pécheresse, même née de nouveau, vous avez encore votre chair, il y a certainement quelque chose en vous qui réagit. Dites « Ah, l'État !» Le gouvernement, souvent, on n'aime pas trop. Alors, on va parler de tout ça. Mais si vous avez cette réaction, c'est normal. C'est normal. Et ce texte fait réagir cette réaction. Mais nous allons voir la perspective de Dieu sur l'utilité de l'État et sur notre rôle vis-à-vis de l'État. D'accord ? Alors, passons à cette question pertinente. Numéro un. Quelle est notre responsabilité générale vis-à-vis de l'État ? Le verset 1 nous répond. Regardez. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors ce verset, il n'est rien d'autre que révolutionnaire. Le mot ici, que toute personne soit soumise, c'est le mot upotasso en grec qui veut simplement dire se placer en dessous de quelque chose. L'idée, c'est d'un soldat qui a un rang inférieur et doit ainsi se soumettre à son général qui a une autorité absolue sur lui. Le même mot, par exemple, est utilisé dans Tite 2:9, exhorte aux serviteurs, donc aux esclaves ici, parle des esclaves et ceux qui étaient esclavagistes, exhorte aux serviteurs à être soumis à leur maître. C'est le même mot ici, c'est l'obéissance. Ce verset exhorte donc toute personne à se placer délibérément sous l'autorité de son gouvernement, les autorités supérieures. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce commandement ne mentionne pas les qualifications, ne donne pas de conditions, s'adresse à toute personne, n'importe où dans le monde. Alors puisqu'on a beaucoup de nationalités dans notre église, pensez à votre pays, votre gouvernement d'origine, disons. Et ce verset s'applique à toute personne, quel que soit le régime sous lequel il se trouve. Tout chrétien est appelé à obéir à toute autorité civile, même si elle est immorale, cruelle et incompétente. Dieu nous demande en tant que chrétiens d'être des citoyens modèles et d'ainsi respecter les autorités. Pourquoi ? Ça, on va le voir, mais en fait, tout gouvernement est mieux que l'anarchie. Alors, est-ce que ceci veut dire que parfois il n'y a quand même pas des dirigeants qui ont des traits de caractère qui rendent la tâche de se soumettre difficile ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'injustice ? Oui. Oui. Et dans ce cas-là, on va voir, il y a une soumission. Écoutez ces versets. J'exhorte donc 1 Timothée 2:1. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tout homme, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, il y a une soumission, mais aussi nous prions, parce que nous savons que certains dirigeants sont très mauvais. Nous devons prier pour eux, et prier que le Seigneur transforme leur vie en Jésus-Christ. Mais donc, globalement, notre responsabilité générale vis-à-vis de l'État, elle est clairement notée, nous devons nous soumettre à ses autorités. Deuxième question. A-t-on le droit de pratiquer... Avant la deuxième question, regardez Tite 3, juste pour vous montrer que ce concept, il est vraiment dans toute la parole de Dieu. Tite 3:1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Donc il dit, sois soumis aux magistrats et aux autorités. De nouveau, clair. Regardez encore 1 Pierre 2:13, où nous lisons ceci. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc il dit qu'on doit de nouveau être soumis aux autorités établies parmi les hommes, les rois et les gouverneurs. Donc c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Deux. A-t-on le droit de pratiquer la désobéissance civile? Donc, faut-il, John, se soumettre aveuglément à ces régimes peut-être barbares? Ou bien, peut-on refuser d'obéir parfois aux autorités? Question importante. Mais la réponse est oui. Oui, nous avons le droit, parfois, de désobéir aux autorités. C'est ce que j'appelle l'exception à cet ordre de soumission aux autorités. La désobéissance civile est un principe évoqué dans la Bible. Voici le principe. Je vous le résume. Nous avons le droit de désobéir à l'État en question lorsqu'il nous donne un ordre qui va clairement à l'encontre de la parole de Dieu, qui est donc la volonté de Dieu. Ou bien il nous force de faire quelque chose qui n'est pas biblique, ou il nous interdit de faire quelque chose que la Bible nous commande de faire. Dans ces deux cas-là, ou ce cas-là, je pourrais dire, lorsqu'on va à l'encontre de la parole de Dieu, on a le droit de désobéir. Il y a des exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous rappelez les sages-femmes. Lorsque Pharaon voyait tous les Juifs grandir en Égypte, eh bien dans 1:16, il est dit ceci. Donc il y a eu un ordre donné aux sages-femmes: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc on leur a donné un ordre: tuez les garçons. Verset 17, mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et au verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Donc voilà un très bon exemple de la désobéissance civile, bénie par Dieu. Dans Daniel 1:5, Shadrach, Meshach et Abednego, avec Daniel, ont refusé de manger la nourriture du roi en Babylonie, car ils se seraient souillés en mangeant de la nourriture non prescrite dans la loi. Dieu les a bénis pour cela. Dans Daniel 3:16-18, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la grande statue de Nebuchadnezzar dans un acte d'idolâtrie. Alors ça, c'est intéressant, je pense, ce qu'ils disent là. Je vais le mentionner. Dans Daniel 3 et le verset 16, on lit ceci. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Parce qu'on leur a dit: « Si vous ne prosternez pas devant Nebuchadnezzar, on vous mettra dans une fournaise ardente et vous allez mourir dans les flammes. » Alors ils disent: « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors c'est très intéressant parce que là on voit, non, nous refusons de faire ce que nous te demandes de faire, et écoutez bien, ils acceptent les conséquences de ce choix. Ils se disent, bon, ben écoute, moi je refuse d'obéir, mais je vais peut-être mourir, je vais peut-être aller dans la fournaise ardente. Alors ils disent: Seigneur, Dieu peut nous protéger, mais s'il ne nous protège pas, ça c'est le rôle de Dieu, eh bien on ne violera pas ce que nous savons être juste vis-à-vis de Dieu, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Dans Daniel 6, Daniel refuse de ne pas adorer et prier le seul vrai Dieu. Vous rappelez, lui voulait prier, on lui a dit non, tu n'as pas le droit de prier, mais il l'a fait quand même, et il s'est fait jeter dans la fosse aux lions. Mais il a refusé l'ordre du roi. Dans le Nouveau Testament, alors l'exemple classique est dans Actes, le livre des Actes, au verset 17, chapitre 4, verset 17. Nous voyons que les autorités juives avaient interdit aux apôtres de parler de Jésus au peuple et d'évangéliser. D'accord ? Alors au verset 17... ils disent: « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, ils disent, donc ça c'est le Sanhédrin, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui ce que soit de ce nom-là. » Donc ils interdisent aux apôtres d'annoncer le nom de Jésus au peuple. Interdiction, vous n'avez plus le droit. Alors ils les appellent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus, verset 18. Alors bien sûr, la réplique est très connue, très célèbre. Pierre et Jean leur répondirent, verset 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils disent, savoir, est-ce qu'on obéit aux autorités ou est-ce qu'on obéit à Dieu? Alors, dans le cas où Dieu donne un ordre clair qui va à l'encontre de ce que les autorités demandent, eh bien, on désobéit aux autorités. Bien sûr, l'ordre clair de Jésus à cet égard de l'évangélisation se trouve dans Marc 16, 15, par exemple, où il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la création. Donc, il dit, nous, on ne peut pas ne pas prêcher l'évangile. Dieu nous demande de le prêcher. Donc, ils acceptent les conséquences et sont emprisonnés pour. Acte 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, le principe de la désobéissance civile, c'est oui. Le chrétien a le droit, dans certains cas, de désobéir aux autorités, mais cette raison doit être claire vis-à-vis de la parole de Dieu. Et, ça c'est la partie la plus difficile, si on refuse d'obéir aux autorités parce qu'il va à l'encontre de ce qu'enseigne la parole de Dieu, nous devons alors pleinement accepter les conséquences de ce refus. Et comment est-ce qu'on les accepte? Là, c'est bien difficile. Philippiens 2, 14. Il a dit ceci, « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » D'accord? Donc, on n'accepte pas en criant, en se battant, en donnant des coups de poing, non, avec une bonne attitude. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage, on donne un témoignage. Même dans un moment de désobéissance civile, si on était vraiment appelé à faire cela. 3. On est encore au verset 1, d'accord? Ensuite, ça va plus vite après. 3. Pourquoi devons-nous nous soumettre aux autorités? Pourquoi? Alors, cette réponse, elle est incroyable. Regardez verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ensuite, il donne la raison. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Waouh ! Il faut vraiment comprendre la portée de ce verset. C'est incroyable. Il est très important de comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Paul, qui écrivait ces versets, écoutez bien, sous l'inspiration du Saint-Esprit, savait pertinemment que l'état auquel il appelait les chrétiens à se soumettre allait massacrer certains d'entre eux pour leur foi en Jésus-Christ. Parce que cette épître, c'est quoi? C'est l'épître aux Romains. Donc Paul écrit aux Romains. Il écrit à l'église qui existait à Rome, là où César régnait et là où les chrétiens étaient violemment persécutés. Peu importe donc de savoir si César était bon ou mauvais, s'il était juste ou injuste, s'il était cruel ou barbare, s'il était parvenu au pouvoir légitimement ou par un coup d'État. Non, Paul était bien conscient que les empereurs romains vivaient dans une débauche extrême. Toutefois, l'autorité n'en restait pas moins légitime et chaque croyant devait s'y soumettre. Donc, quelle que soit la forme, l'autorité gouvernementale est voulue par Dieu et existe pour le bien de la société humaine. Tout État, même le pire, vaut mieux que l'anarchie. Dans 1 Corinthiens 14, verset 40, nous lisons, « Mais que tout se fasse avec bienséance avec et avec ordre. Dieu aime l'ordre, même s'il est imparfait. » Alors, il y a un exemple, moi, je trouve suprême, parce que je viens de lire un article sur la Somalie et Mogadiscio. Alors, ça fait quoi, 20 ans que la Somalie est vraiment anarchique. C'est un endroit vraiment dangereux. C'est en train de changer apparemment, ce que j'ai lu récemment. L'ordre, même s'il n'est pas très bon, vaut mieux que l'anarchie. Et regardez ce qu'il dit en plus dans le verset. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, car les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, on apprend que, quelle que soit sa forme, que tout gouvernement humain qui n'a jamais existé ou qui existe actuellement ou qui existera dans l'avenir, écoutez bien, est sous le contrôle souverain de Dieu. Lui les a créés et lui les institue. Alors, il y a un petit verset vraiment intéressant dans le psaume 2 pour montrer que Dieu a un regard suprême sur ce qui se passe. Nous, des fois, on a l'impression qu'il y a le chaos général et que Dieu n'est pas trop mêlé dans les affaires du monde. Regardez, écoutez le psaume 2.1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Très intéressant. Simplement que ça montre que Dieu est souverain sur ces choses. Pensez à votre pays. Pensez à votre président, votre forme de gouvernement. Selon ce verset, il est là, dans le plan de Dieu. Ouais, Daniel 2, 20 et 21, Daniel prit la parole, dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, écoutez, qui renverse et qui établit les rois. » Dieu renverse et établit les rois. Daniel 2, 20, Daniel 4, 17, dit ceci, « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants, donc nous, sachent que le Très-Haut, Dieu, domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Ce verset nous dit que Dieu met en place des gens, il domine sur le règne des hommes, donc dirigeants, il donne ce pouvoir à qui lui plaît, et parfois il y élève des hommes vils. C'est des hommes mauvais. Vous dites, Dieu fait ça? Ben oui, c'est ce que la Bible dit. Dieu fait ça. Dans sa providence, Dieu établit dans le monde des bons et des mauvais dirigeants. Ésaïe 45, 1. L'Éternel parle à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Dieu peut prendre une nation mauvaise et l'utiliser comme un outil pour juger une autre nation. C'est ce qu'il dit ici dans Ésaïe 45. Dans Habacuc 1, « Voici, je vais susciter les Chaldéens, un peuple furibond et impétueux, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. » C'est intéressant, Habacuc considère ce pays comme la verge de Dieu pour punir un autre pays. Tenez-vous bien, allez avec moi à Jean 19, regardez. Jean 19, ça c'est vraiment un verset incroyable. Jean 19, 10, d'accord? On parle de Jésus ici. Même Jésus reconnaît la souveraineté de Dieu sur les pouvoirs. Jean 19, 10, Jésus est devant Pilate. Il est en train de se faire juger de manière injuste par Pilate. C'est son procès. Regardez, Pilate lui dit, parce que Jésus refusait de parler à ce moment-là, ne sais-tu pas, alors verset 10, verset 9, il rentrait dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas, Pilate dit, que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus, ne réalises-tu pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te tuer aujourd'hui? À quoi Jésus répond, verset 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Waouh ! Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir si ce n'est pas Dieu qui te le donnait. Même le pouvoir de me crucifier ne va jamais arriver à moins qu'il soit dans la volonté de Dieu. Et c'était quoi la volonté de Dieu ? Que son fils soit crucifié. Et donc Dieu a donné ce pouvoir à Pilate et personne d'autre. Voyez-vous, Pilate ne pouvait agir qu'à l'intérieur des limites de la souveraineté de Dieu. Donc, les régimes cruels et barbares du monde existent aussi à l'intérieur des limites de la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est un paradoxe intéressant. Parce qu'il faut quand même, nous, en tant que chrétiens, réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Parce que qu'est-ce que nous apprend l'histoire? Eh bien, c'est souvent dans les pays d'une cruauté terrible que l'Église a grandi le plus rapidement. Alors, est-ce que Dieu a un plan? Est-ce qu'il sait très bien que si l'Église doit grandir, si les gens doivent venir à Christ, peut-être c'est dans les régimes les plus difficiles où il y a plus de fruits. Alors ça, c'est un gros paradoxe. Nous, dans les pays qui sont si faciles, bah, regardez l'Église, elle est quand même dans un pitoyable état. Les églises sont petites d'habitude. Les gens ont la peine à venir à Christ. C'est vrai. On n'est pas en train de dire qu'on espère la persécution, mais ça fait réfléchir tout ça. Alors comment on explique Hitler? Ben ça, c'est quand même l'extrême, situation extrême. Alors, moi, je veux dire ce que je pense vis-à-vis d'Hitler. Il donnait franchement l'apparence d'être réellement possédé par Satan. On ne peut pas envoyer 6 millions de personnes, hommes, femmes et enfants, aux chambres de gaz de camps de concentration hitlériens sans probablement être possédé par Satan. Alors, sur quelle base est-ce que je dis cela? Bien, dans Jean 8, 44, il est dit ceci. Vous avez, Jésus parle à les pharisiens, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il dit, voilà, Satan peut posséder des gens. Satan est un meurtrier et donc il pousse des gens à tuer. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout tueur est possédé, mais quand quelqu'un tue 6 millions de personnes, on peut quand même se poser la question. Est-ce qu'il n'était pas peut-être possédé par Satan? Mais alors, dans quel sens pouvons-nous affirmer que l'a fait Daniel dans Daniel 2, que c'est Dieu qui établit et renverse les rois? Eh bien, apparemment, selon ce que la Bible enseigne, Hitler fut l'instrument de la main de Satan, mais Satan était l'instrument de la main de Dieu. Luther a dit ceci, que même le diable est le diable de Dieu. Voyez-vous, Dieu a créé le monde, il a créé Lucifer, c'était un ange, qui a péché, qui devint Satan. Rien n'arrive dans le monde sans que Dieu le permette de l'avance. Alors, il y a l'exemple de nouveau suprême, Job. Vous vous rappelez Job? Dans Job 1, il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Un homme était intègre, droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Top niveau, le gars. Il avait 7 filles, 3 fils, 10 enfants. Il avait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 5 000 paires de bœufs, 500 ânes, très grand nombre de serviteurs. C'était un homme le plus éminent de tous les fils d'Orion. Vraiment un homme droit, riche, bien. Alors les fils de Dieu, verset 6, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc Satan se présente devant Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan parcourt la terre. Il s'y promène, il regarde. C'est dingue, hein? Et puis il a tous ses démons en plus. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondait à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Vous allez voir, il y a une conversation céleste là-haut. Job, il ne sait même pas ce qui se passe. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, écoutez, c'est incroyable. Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et là commence la galère pour Job. Vous dites, je ne comprends pas. Écoutez, honnêtement, moi non plus. D'accord, je ne comprends pas. Mais c'est vrai. Dieu est souverain et Satan ne peut pas agir à l'extérieur de la souveraineté de la providence de Dieu. Que ce soit un homme comme Job, comme vous et moi, ou dans un État ou dans un pays. Donc Satan, les hommes, les démons, la liberté d'agir dans les limites autorisées par Dieu. Alors, vraiment bien, heureusement qu'Éphésiens 1, 11 est là. Éphésiens 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui, écoutez, opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Tout opère dans le monde selon le conseil de la volonté parfaite de Dieu. Rien n'arrive, même les plus grands drames, sans que Dieu, d'une manière ou d'une autre, l'ait autorisé. Écoutez, ça, c'est vraiment réconfortant, mes amis, pratiquement, lorsqu'une épreuve vous tombe dessus que vous ne comprenez tout simplement pas. Vous dites, là, j'y comprends plus rien. Peut-être c'est le décès de quelqu'un, peut-être c'est le divorce dans votre couple, peut-être c'est un problème de maladie, peut-être vous chopez une maladie incurable, le cancer, je ne sais pas. Il peut y avoir tellement de drames, un accident, le chômage, toutes les épreuves qui peuvent nous tomber dessus. La première réaction, c'est, Seigneur, je ne comprends pas. C'est vrai, ça c'est normal, c'est humain. Mais tous ces versets que nous venons de voir nous rassurent, nous dire tant. Est-ce que Dieu est souverain? Oui. Est-ce qu'il est tout-puissant? Oui. Est-ce qu'il aurait pu éviter cette épreuve dans ma vie? Oui. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Donc il l'a autorisé? Oui. Est-ce qu'elle vient de Satan? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Je ne sais pas. Mais Dieu est souverain. Donc, je peux bénir Dieu, même dans l'épreuve, sachant que sa volonté parfaite est en train d'être accomplie dans ma vie. On ne bénit pas pour l'épreuve, hein. L'épreuve est dure, mais on peut bénir Dieu parce que sa providence et sa majesté et sa souveraineté est opératoire dans ma vie, même quand je ne comprends pas. Et comme un auteur a dit, le chrétien peut se reposer sur l'oreiller de la providence de Dieu le soir. Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu es souverain, donc je vais dormir dans cette souveraineté. Ça fait du bien, non? Si on n'avait pas ça, ben on serait... Il n'y a aucun espoir. Il faut que je me dépêche. Ah, ça, c'était encore dans le verset 1, je crois, non? Non. Ouais, c'est le verset 1. Quel est le rôle principal de l'État vis-à-vis de nous? Versets 2 et 3. C'est la cinquième question. Quel est le rôle principal de l'État vis-à-vis de nous? Alors, tenez-vous bien. Il y a deux rôles. Ils sont appelés à condamner le mal et à prouver le bien. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Alors, ces versets sont très simples à comprendre. Si nous résistons l'autorité que Dieu a établie au-dessus de nous, c'est Dieu lui-même que nous résistons, puisque c'est lui qui a établi l'autorité. Et pour nous faire obéir, ça c'est là où on a vraiment un problème, pour nous faire obéir, ça c'est le côté qu'on n'aime pas, Dieu a confié à l'État, à l'autorité en place, de nous punir si nous résistons à l'autorité. C'est leur rôle, c'est leur devoir. Mais aussi, cette même autorité est censée approuver le bien que nous faisons. Alors là, vous dites, alors John, ils sont champions pour nous punir, mais alors pour approuver le bien, jamais de la vie. Hein? C'est ce qu'on a envie de se dire. Quand est-ce que la dernière fois que le maire est venu chez moi pour m'applaudir et me remercier d'être un bon citoyen? Vous dites, c'est jamais arrivé. Alors, oui, c'est faux, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est faux. Écoutez. L'État ne me félicite pas quand je fais le bien, vous dites. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si je compare Genève et Mogadiscio, à Mogadiscio, c'est l'anarchie. À Genève, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Je vous donne un exemple. À Genève, tu peux vivre en paix chez toi, en sécurité, globalement. D'accord? Il y a toujours des exceptions. Globalement, si tu payes tes factures. Donc, tu auras un toit. À Genève, tu peux marcher dans les rues et te sentir globalement protégé par la police pourvu à cet effet. Donc ça, c'est bien. À Genève, les banques protègent vraiment ton argent parce que les lois bancaires obligent aux banques de le faire. À Genève, tu peux travailler sans peur de ne pas recevoir ton salaire mérité à la fin du mois car les lois du pays te protègent. Tu dois recevoir ton salaire. À Genève, si tu es licencié, tu peux être assuré que tu toucheras ton chômage car les lois du pays l'obligent. À Genève, si un fou roule trop vite et met les gens en danger, les fameux radars s'occuperont de le ralentir. Vous voyez, c'est super les radars. Tout est dans la perspective. L'État approuve vraiment le bien globalement. Si tu fais le bien, respecte les lois, tu seras, je pense, plus heureux que celui qui viole constamment la loi. Tu auras moins d'ennuis et tu seras plus riche parce que tu auras moins d'amendes. Donc il y a deux possibilités. Tu résistes l'autorité et tu vas être condamné par elle, ou bien, comme le dit le verset 3, tu vas craindre l'autorité et faire le bien et recevoir son approbation. 6. Quel pouvoir l'État a-t-il sur nous ? Incroyable. Regardez verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. L'État a deux rôles. Deux pouvoirs, si je peux dire ainsi, sur nous. Il porte l'épée et il exerce la vengeance. C'est ce qu'il dit. Alors, c'est intéressant, juste avant, au verset chapitre 12, il nous dit au verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Il dit, « Personnellement, nous ne devrions jamais nous venger personnellement. Mais, remets-toi à l'État, parce que l'État a le rôle de venger. » C'est son rôle. Donc la vengeance, c'est bien vis-à-vis de l'État. Ce verset est important à comprendre le rôle principal de l'État, de protéger les innocents des agresseurs et de condamner ceux-ci pour les crimes. Si l'homme n'avait pas la crainte des autorités supérieures, il serait livré à lui-même et la population vivrait dans une terreur perpétuelle. Je trouve intéressant, le rôle de l'État est d'exercer la vengeance. C'est une chose bien. Donc les lois, les cours de justice, les tribunaux, la police, l'armée, les prisons, même la peine de mort, on y reviendra, sont établis par Dieu dans les autorités pour freiner l'homme déchu de son désir de faire le mal. Les autorités supérieures existent pour arrêter les hommes malfaisants dans leur méchanceté. En fait, c'est pareil pour un enfant. Pourquoi est-ce que la Bible dit clairement que les parents doivent punir les enfants désobéissants ? C'est pareil. C'est pareil. S'ils ne redoutent pas la punition, les enfants, s'ils ne reçoivent que des menaces sans jamais être punis, ils finissent par ignorer la réprimande et feront le mal. Lisez le livre des Proverbes si vous n'êtes pas convaincus. Si les hommes méchants n'ont pas à craindre de châtiments justes et rapides pour leurs crimes, ils continueront à faire le mal. Alors regardez verset 4. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Alors, une question est intéressante. Ce mot épée, il veut dire quoi ? Écoutez, je vous donne l'interprétation. Le mot épée veut dire épée. D'accord ? Mais c'est important de le savoir. Parce que la question est celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait avec une épée d'habitude ? Ça sert à quoi une épée ? Chatouiller ? Alors c'est vrai que la reine, je crois en Angleterre, elle n'utilise pas une épée pour sacrer quelqu'un, lord peut-être, ok. Mais d'habitude, c'est une arme. On fait quoi avec une épée ? On tue. On tue. Et ici il dit, il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc clairement il dit, l'épée a comme but venger, punir. Alors John Murray écrit ceci. Dans la Bible, l'épée est si souvent associée à la mort en tant qu'instrument d'exécution que d'exclure son utilité pour cette cause dans cette instance serait si arbitraire que cela porterait préjudice contraire à l'évidence. Il y a quelques exemples, il y en a beaucoup, mais je vous en donnais juste quelques-uns. Dans Actes 12, 1 et 2, pour voir à quoi sert une épée. Acte 12, 1, vers le même temps, le roi de Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et d'habitude, ça veut dire décapité. Donc l'épée était clairement utilisée pour tuer, Vous lire Matthieu 26, 52, Luc 21, 24, Hébreux 11, 34, Apocalypse 13, 10. Tous ces textes sont une référence à l'épée comme outil pour tuer. Et donc, Paul utilise le mot épée ici pour montrer que l'État doit punir les crimes. Et on a quand même l'impression que là, il y a l'approbation pour la peine de mort. Et je pense que l'épée a non seulement le rôle dans l'État, à l'intérieur de l'État, mais je pense qu'ici, ça porte sur le droit à l'armée. Les pays peuvent avoir des armées pour se protéger des malfaiteurs à l'extérieur dans leur pays. Alors vous dites, mais John, la peine de mort, franchement, on est en Europe, quoi. C'est pas trop priser la peine de mort aujourd'hui. Vous savez, je crois que pour devenir membre de l'Europe, la charte doit être signée comme quoi on est contre la peine de mort. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Écoutez, juste un ou deux versets pour soutenir ce petit point. Genèse 9, 6 dit ceci. Peut-être on va commencer au verset 5, Genèse 9, 5. « Sachez-le aussi, je demanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc, il est en train de dire tout simplement que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc, il y a sur l'homme une empreinte de Dieu. Une empreinte de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Une empreinte morale. Et donc, ce qu'on apprend dans ce verset, c'est que le meurtre prémédité est une attaque personnelle sur la dignité du Créateur. Quand tu tues quelqu'un, il y a quelque chose du Créateur qui disparaît dans cette vie. Le meurtrier devient preneur de vie, destructeur de l'image de Dieu. Selon Jacques 3, 9, tout homme est encore créé à l'image de Dieu de nos jours. Alors, Lévitique 24 est clair. La Bible est vraiment claire sur ce sujet. 24 et 17, Lévitique 24 et 17, nous lisons ceci. « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Verset 21 répète, « Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. » Vous dites, mais alors, mais s'il n'y a pas des exceptions? Oui, il y a des exceptions. Là, on parle de la mort ou du meurtre prémédité. Prémédité. Lorsque le sixième commandement dit « Tu ne tueras point », on interprète le sixième commandement juste après, à partir du chapitre 21 d'Exode et le verset 12. « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. » C'est la préméditation. Si tu as planifié de tuer quelqu'un et là tu te planques dans une église, ils viennent te chercher pour te tuer selon ce que Lévitique 24 dit. Ah, c'était radical. Alors attention, il y avait d'autres lois, on ne va pas regarder tout ça, mais vous pouvez regarder dans le message sur le sixième commandement que j'ai donné quand j'ai fait la série sur les 10 commandements. Il fallait avoir des juges justes. Donc il fallait un tribunal, il fallait juger la personne, il fallait des témoins justes. Vous pouvez lire Deutéronome 16, Deutéronome 19, des témoins justes, Nombre 35, Deutéronome 17, Deutéronome 19. Un faux témoin était lui-même exécuté. Donc c'était radical. Très intéressant, et je crois que c'est un des gros problèmes aujourd'hui de la justice. Ecclésiaste 8, 11 nous dit que ça devait être rapide aussi. Rapide. Ecclésiaste 8, 11 dit ceci, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Quand un jugement est 10 ans plus tard, bien sûr que ce n'est pas dissuasif. Et tenez-vous bien, là, vous n'allez pas y croire. Deutéronome 19, si l'homme était clairement coupable et méritait la mort, écoutez ce que Deutéronome 19, 11 dit. Si un homme s'enfuit dans une de ses villes, après avoir, donc une ville de refuge, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué frappé de manière à causer la mort, donc s'il était un meurtrier prémédité, clair et net, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur de sang afin qu'il meure. Écoutez verset 13. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent et tu seras heureux. Il dit, n'aie pas pitié de lui. Et aujourd'hui, on est dans un mode où on a l'impression que tout le monde est victime. Oui, mais écoutez, ce meurtrier a tué 20 personnes ou 77 personnes, mais vous ne comprenez pas, il a eu un problème avec sa maman et il était dans une famille abusive et il avait de l'alcool. Bref, il n'est même pas coupable. Il est fou. Et il faut avoir pitié de lui. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est radical, hein? Vous dites, ouais, mais John, ça c'est l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. Je te donne deux exemples. Dans Actes 25, Paul est dans un cours de justice. Il est en train de se faire juger. Écoutez, Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais. Donc il est en train de donner sa défense. C'est là où je dois être jugé. Donc il reconnaît, ok, je suis jugé, ça marche. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Donc il dit, je ne suis pas coupable. Écoutez maintenant, si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Paul dit, la peine de mort, c'est justifié. Si j'ai été coupable de la peine de mort, ok, j'accepte. C'est Paul qui a dit ça. Paul qui a dit ça. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Donc c'est un exemple comme quoi le Nouveau Testament autorise, même Paul, voyait le bien fondé de la peine de mort. Alors tout ça, mes amis, c'était pour décrire le mot épée. On revient à Romains 13. D'accord ? Verset 4, les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire, verset 5, d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Si vous aimeriez plus d'informations sur tout ça, je vais vite là, j'aimerais vous présenter deux livres. Alors je l'ai en anglais, mais il existe en français, La Croix d'Hitler. Un des meilleurs livres que j'ai jamais vu et jamais lu sur la souveraineté de Dieu, même sur un régime cruel comme celui d'Hitler, par un homme qui s'appelle Erwin Lutzer, un pasteur à Chicago, excellent bouquin. Bon, ça fait drôle de faire cette pub pour ce livre, mais parce que j'ai élaboré là-dessus, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Une réflexion chrétienne sur la guerre ». Et ça aussi, je décris beaucoup plus en détail tous ces sujets qu'on vient d'évoquer très rapidement. Donc, c'est peut-être deux ouvrages qui pourraient vous aider par rapport à cela. Là, je vais simplement conclure avec ce dernier point avant de passer à la Sainte-Seine ce matin. La dernière question, regardez. Quelle est notre responsabilité dans le financement de l'État ? Alors, je pense que là, vous sursautez de joie. Vous dites, ah super, attends, moi, je dois financer l'État ? Vous devriez sursauter de joie. Nous devrions sursauter de joie. Regardez le verset 6. C'est aussi pour cela que nous payons, non, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Et là, il nous donne le bien fondé des impôts. Pourquoi on paye des impôts ? Parce que toute cette protection coûte très cher. C'est aussi simple que ça. Ça vient qui dit, ouais, t'as raison, parce qu'il est policier, alors nos impôts le payent, c'est très bien. Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'être protégé. Les lois, dans tous ces domaines qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a des gens qui sont là, qui font ces lois et qui les maintiennent pour nous. Pour nous protéger, même si elles sont parfois injustes, même si elles sont parfois imparfaites. Elles sont là pour notre bien. Ces petits radars qu'on importe. Moi, on m'a dit qu'il y a le radar à Bardonnay, il est en France, je crois. Avant d'arriver à la douane, côté France, vous descendez sur Genève. J'ai lu l'autre jour, c'est le premier radar de France. Le plus rentable pour le pays de la France, il est juste là, vous le saviez ça ? chaque fois que vous y allez, c'est incroyable. Là. Alors moi, je me dis, attends, voilà, il y a tout qui est injuste. J'ai l'impression, hein, ça c'est mon homme qui parle, mais ensuite je me dis, c'est marrant, tout le monde ralentit maintenant. Tout le monde ralentit, ça marche. Et vous savez quoi? C'est cher ces radars. Et il faut les maintenir. Et une fois qu'ils flashent, le PV, je crois qu'il y a quelqu'un dans l'église justement qui est responsable des PV à Genève. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. D'accord? Bonne personne à connaître. Non, je blague, d'accord? Mais ça coûte tout ça. C'est pour ça qu'on paye nos impôts. Vous dites, ouais, mais John, franchement, alors, je termine avec ça. Matthieu 22, regardez. Là, ça va vraiment vous surprendre. Matthieu 22, 15. Les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils veulent piéger Jésus. Ils l'envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens et dirent « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, que tu as un regard par l'apparence des hommes. Dis-nous !» Ils vont le piéger là. « Que te semble-t-il? Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Alors ça, c'est une question géniale. Pourquoi? Parce que si Jésus répond « oui, il faut payer à César », comment les Juifs vont réagir? Traître! Traître! Payez César les impôts. Et s'il répond « non, 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 il ne faut pas payer César », les Juifs sont tout contents. Alors, ils vont tomber sur Jésus parce qu'il s'opposait à l'autorité de Rome. Jésus est coincé. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous hypocrite ?» Waouh ! Il n'est pas bof, hein ?« Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» Donc, c'est l'image de qui, là, sur le denier ? Mais lui répondirent, César. En plus, alors, les Juifs n'aimaient pas César parce qu'ils se prenaient pour un dieu. Donc ça, c'était même l'idolâtrie pour eux. Et Jésus répond quoi? Verset 21. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est trop génial. Trop génial. Et vous rappelez l'histoire dans Matthieu 17, où il y a la taxe pour le temple qui doit être payée. Pierre va pêcher un poisson et dans la bouche du poisson, il y a une pièce et Jésus paye son impôt. Jésus a payé ses impôts, mes amis. Il reconnaît ici quand même un régime barbare comme celui de César méritait qu'on paye les impôts. On paye nos impôts. Ce n'est pas un mal de trouver des moyens légaux de diminuer ses impôts, ça c'est pas de problème du tout. Mais l'évasion d'impôts, ça, c'est un crime. Ça, il ne faut pas. D'accord? Alors, vous dites, ouais, mais John, je paye tellement d'impôts. Bénis le Seigneur, parce que plus tu payes d'impôts, ça veut dire plus tu gagnes de l'argent. Donc, tout est dans la perspective. L'idée, c'est de payer beaucoup d'impôts. Comme ça, tu te dis, bah, donc, le Seigneur est bon, il m'a donné beaucoup de moyens. Tout est dans la perspective, mes amis. Nous devons bénir le privilège que nous avons de payer nos impôts. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ? Il est un peu faible, hein, d'accord. Écoutez, on va juste prendre quelques minutes. Je sais que peut-être certains de vous devez partir, il n'y a pas de problème. On va terminer le culte avec la Sainte-Seine. Vous dites, ouais, mais John, comment est-ce qu'on passe des impôts à la Sainte-Seine, d'accord? Mais je vais vous dire comment on passe des impôts à la Sainte-Seine. Si vous n'êtes pas un chrétien régénéré, si vous ne connaissez pas Christ personnellement, si vous ne vivez pas pour lui, vous allez avoir de la peine à vraiment dire Amen et dire oui, bah écoute Seigneur, je veux me soumettre aux autorités, je veux payer mes impôts. Moi, je veux être un citoyen modèle. Donc peut-être on doit vraiment réviser nos cœurs ici. Où j'en suis où moi avec le Seigneur? Avec l'État, oui d'accord, mais est-ce que l'État révèle là où j'en suis avec le Seigneur? Prenons quelques instants, faisons le point et ensuite je vais appeler mes trois frères à venir m'aider à distribuer la Sainte-Seine. Prenez le temps, examinez-nous, examinez-vous et examinons-nous devant le Seigneur.